Chapitre 2, versets 1 à 3, notre vie pratique en relation avec la parole de Dieu. Citation de l'Écriture. Rejetant donc toute malice et toute fraude, et l'hypocrisie et l'envie et toute médisance, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. Fin de citation. Ayant été régénérés par la parole, et possédant ainsi une nature nouvelle avec des désirs nouveaux, et ayant la vérité par laquelle nous pouvons purifier notre âme, nous sommes mis en garde par l'apôtre contre quelques-unes des manifestations mauvaises de la vieille nature. Celles-ci seraient en obstacle à l'amour les uns pour les autres, comme aussi à notre croissance spirituelle. Nous devons rejeter la malice qui nourrit de mauvaises pensées à l'égard des autres, la fraude qui tente de cacher ce que nous sommes, l'hypocrisie qui prétend être ce que nous ne sommes pas, et l'envie qui conduit à médire de celui dont nous sommes jaloux. La fraude et l'hypocrisie accompagnent toujours la malice. Celui qui parle avec malice de son frère cherchera peut-être à dissimuler celle-ci en prétextant qu'il agit pour le bien de son frère. C'est de la fraude. Il affirmera aussi qu'il n'a dans son cœur que de l'amour pour son frère. C'est de l'hypocrisie. Les paroles malicieuses masquent l'envie qui est le motif véritable de la médisance. Le sage dit à juste titre « La fureur est cruelle et la colère déborde, mais qui subsistera devant la jalousie ?» Proverbe 27, verset 4. En rapport avec la parole de Dieu, nous sommes exhortés à conserver toujours l'esprit du nouveau-né qui désire ardemment le lait par lequel il grandit et qui en jouit. La parole, qui est la semence de la vie, est aussi ce que Dieu donne pour entretenir la vie. Tout désir réel pour la parole résulte de ce que nous avons goûté que le Seigneur est bon. Plus nous jouissons de la compagnie du Seigneur, plus nous désirerons nous asseoir à ses pieds et écouter sa parole. Chercher Christ dans toutes les Écritures produira de l'intérêt et de l'amour pour la parole de Dieu et rendra clair et simple plus d'un passage difficile. Quelqu'un a dit « La Bible est un livre destiné même à des enfants. » Dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut et faire que l'homme de Dieu soit parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Elles se révèlent aux petits-enfants parce que les sages et les intelligents ne veulent pas l'écouter. Marie de Béthanie est un exemple remarquable d'une âme qui, ayant goûté que le Seigneur est bon, trouvait son bonheur à s'asseoir à ses pieds et à écouter sa parole. Si nous étions plus profondément pénétrés de la bonté du Seigneur, nous conserverions toujours l'attirance du nouveau-né pour la parole. Nous nous réjouirions de chaque occasion de nous en nourrir et de nous rassembler pour la lire. Il en résulterait pour notre âme une croissance à salut. Nous serions peu à peu délivrés de tout ce qui nous empêche de progresser spirituellement jusqu'à ce qu'enfin nous parvenions au salut final, à la venue de Christ, lorsque le corps de notre abaissement sera transformé en la conformité du corps de sa gloire. Désirer de la nourriture est la preuve de la vitalité du nouveau-né. Ainsi, la vitalité spirituelle se manifeste dans le désir de la nourriture spirituelle de la parole. Non pas simplement le désir d'intelligence dans la vérité, mais le désir de la parole comme étant ce qui nourrit l'âme en présentant Christ et en le lui rendant plus précieux. Versets 4 à 8. Notre vie pratique comme pierre vivante. Citation de l'Écriture. Duquel vous approchant, comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture « Voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. Mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, et une pierre d'achoppement et un rocher de chute. Lesquels heurtent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés. Fin de citation. Jusqu'ici, l'apôtre a parlé de bénédictions individuelles et de la marche qui est conforme à ces bénédictions. Il va maintenant passer aux bénédictions collectives et aux témoignages pratiques communs qui devraient découler des croyants comme un ensemble. Dans le verset 4, les croyants sont considérés comme des pierres vivantes en relation avec Christ, la pierre vivante. Comme telle, ils constituent une maison spirituelle. Écrivant à des croyants d'entre les Juifs, l'apôtre fait constamment allusion à des faits et à des dispositions matérielles qui se rattachent à la nation d'Israël. Il montre que ce qui est matériel préfigurait ce qui est spirituel, et que si, à cause de la ruine d'Israël, ce qui est matériel avait passé, la réalité spirituelle de ces choses subsistait. Dans le premier chapitre, nous apprenons que l'héritage terrestre d'Israël dans le pays a certes été perdu, mais que, dans le christianisme, les croyants ont un héritage conservé dans les cieux. Dans ce deuxième chapitre, il nous est dit qu'en dépit de la mise de côté du temple matériel à Jérusalem, Dieu a néanmoins une maison spirituelle composée de pierres vivantes, où des sacrifices spirituels sont offerts par une sainte sacrificature. Autrefois, Israël était distingué de toutes les nations par la présence de la maison de Dieu au milieu d'eux. C'est là que Dieu demeurait. De cette maison, la louange devait monter vers Dieu et le témoignage se répandre dans le monde. Cette demeure était matérielle, des lieux saints faits de main. Les hommes, nous le savons, ont corrompu le temple, transformant la maison de prière en un lieu de commerce et en une caverne de voleurs. La maison que Jésus appelait la maison de son Père est devenue la maison d'Israël déchu et, comme telle, Dieu l'a abandonnée, la laissant déserte, pour qu'elle soit jetée à bas par les nations et qu'il ne reste pas pierre sur pierre. Matthieu 23, verset 38 et 24, verset 2. Toutefois, la méchanceté et la ruine de l'homme ne peuvent faire échec aux propos de Dieu. Christ, sur la terre, devient le temple de Dieu, celui en qui Dieu a habité et en qui Dieu a été glorifié et par qui Dieu, dans tout son amour et toute sa sainteté, a été placé devant les hommes. Jean 2, versets 18 à 21. Hélas, les hommes ont rejeté Christ. Avoir Dieu demeurant au milieu d'eux leur est intolérable, même s'il est là pour les bénir. De même que la nation d'Israël avait corrompu le temple à Jérusalem, ils ont détruit le temple lorsqu'il fut manifesté en Christ, en le clouant à la croix. Mais de nouveau, nous voyons que Dieu ne renonce pas à son propos de demeurer au milieu des hommes. Christ, bien que rejeté par ceux-ci, est exalté par Dieu, et du lieu de son élévation, le Saint-Esprit est envoyé pour bâtir une habitation pour Dieu, une maison spirituelle composée de tous les croyants. La formation future de cette maison spirituelle a été révélé à Pierre par le Seigneur lorsqu'il dit « Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16, verset 18. Christ est la pierre vivante, le fondement de cette maison spirituelle. Comme pierre vivante, il est rejeté par les hommes, mais choisi et précieux auprès de Dieu. Venant à Christ, la pierre vivante, les croyants, comme des pierres vivantes, sont édifiés une maison spirituelle. Le Christ auquel nous venons est bien la pierre vivante, rejetée par les hommes. Mais nous pouvons nous demander combien sont venus à Christ en réalisant qu'il est rejeté des hommes et dans l'opprobre. Venir à lui, dans la conscience qu'il est rejeté, nous amènera nécessairement à nous séparer du monde religieux corrompu qui nie en pratique son rejet. Nous sortons vers lui, portant son opprobre. Après avoir placé devant nous Christ dans son caractère de pierre vivante, l'apôtre va maintenant parler de ce qui distingue les croyants considérés comme des pierres dans la maison de Dieu. Ce sont des pierres vivantes, participant de la vie de Christ, la pierre vivante, une vie que la mort ne peut pas atteindre. Ils sont édifiés une maison spirituelle, et nous savons, par l'Évangile selon Matthieu, que c'est Christ qui en est le constructeur. Rien de faux n'entre dans ce qu'il bâtit. Le constructeur est parfait. Son œuvre est parfaite. Les pierres sont vivantes. Pendant la période chrétienne, l'édifice croît indépendamment de toute intervention humaine. Nous apprenons ensuite que le grand objet de Dieu en édifiant une maison spirituelle est d'avoir une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En contraste avec un ordre de sacrificature terrestre et matérielle, les croyants constituent une sainte sacrificature. Non seulement ils sont des sacrificateurs, ce qui laisserait entendre une louange individuelle, mais ils sont une sacrificature, ce qui implique une louange collective. L'apôtre cite le prophète Ésaïe pour montrer que le propos de Dieu a toujours été que Christ soit le fondement sûr de toute bénédiction pour les siens. Il est la maîtresse pierre de coin qui porte tout le poids de l'édifice. Comme cette pierre est choisie et précieuse auprès de Dieu, nous pouvons être assurés qu'aucun de ceux qui croient en lui ne sera confus. Cela conduit l'apôtre à opposer ceux qui croient en la pierre vivante et ceux qui la rejettent. C'est pour ceux qui croient qu'elle a ce prix. Toute la valeur de Christ, toutes les bénédictions dont il est le garant, sont acquises aux croyants. Hélas, il y a ceux qui sont désobéissants et qui, de ce fait, rejettent et méprisent celui que Dieu a exalté comme maîtresse pierre de coin. Pour ceci, elle devient une pierre d'achoppement et un rocher de chute. Des hommes se sont heurtés contre la parole. Ils n'ont pas voulu croire la vérité. Aussi, est-ce à cela qu'ils ont été destinés? Non pas à pécher ou à désobéir, mais étant rebelles et désobéissants, leur incrédulité les a destinés à s'achopper à l'humiliation de Christ. Versets 9 et 10. Notre vie pratique comme race élue. Citation de l'Écriture. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Fin de citation. Si Israël avait écouté la voix de Dieu et gardé son alliance, il aurait été pour Dieu un trésor particulier, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voir Exode 19, versets 5 et 6. Il a manqué, et la nation ayant été mise de côté, les croyants sont maintenant vus comme prenant la place d'Israël en tant que témoignage pour Dieu devant le monde. L'apôtre cite la prophétie d'Osée, qui nous dit que, dans un jour à venir, Israël sera à nouveau reconnu. Dans l'intervalle, les paroles du prophète sont appliquées aux résidus croyants d'entre les Juifs. Aux yeux de Dieu, ceux-ci forment une sacrificature royale, un royaume de sacrificateurs, pour annoncer les vertus de Dieu, qui nous a appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière de sa pleine révélation. Nous avons ainsi une très belle image du cercle chrétien composé de tous les croyants attirés à Christ, celui que le monde a rejeté. Hors du camp, dans la place de l'opprobre, ils sont édifiés une maison spirituelle pour être l'habitation de Dieu. Ils sont constitués une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices de louange, et ils sont faits un royaume de sacrificateurs pour annoncer les vertus de Dieu devant le monde. Partant de la fausse supposition que Christ est en honneur dans le monde, la chrétienté n'a pas du tout répondu à ce tableau. Les hommes ont à nouveau édifié des temples magnifiques sur le modèle du temple matériel et ont perdu la vérité de la maison spirituelle. Une classe sacerdotale ordonnée par les hommes a été instituée, en contraste avec la sainte sacrificature composée de tous les vrais croyants. L'adoration est devenue rituelle au lieu d'être en esprit. Et enfin, la chrétienté a constitué des nations soi-disant christianisées en contraste avec une race élue de croyants. Il est difficile, sinon impossible, dans ce jour de ruine, de trouver une expression collective de la compagnie chrétienne telle qu'elle est décrite dans ces versets. Toutefois, la vérité présentée dans toute sa beauté subsiste dans la parole. Et notre privilège et notre responsabilité demeurent d'obéir à la parole. Si nous nous y soumettions, nous serions libérés de tous les grands systèmes religieux humains qui, dans dans leur constitution et leur exercice, sont un reniement flagrant de la vérité. Ceux qui s'en seraient dégagés ne pourraient pas revendiquer le titre exclusif de sainte sacrificature ni de sacrificature royale, mais, avec une foi simple, ils pourraient poursuivre la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, cherchant à marcher à la lumière de ces précieuses vérités. Versets 11 à 17. Notre vie pratique comme forains et étrangers. Citation de l'Écriture. Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête parmi les nations, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous, comme de gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Soyez donc soumis à tout ordre humain, pour l'amour du Seigneur, soit au roi, comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur, comme à ceux qui sont envoyés de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. Car c'est ici la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme libres, et non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Fin de citation. Le premier verset de l'Épître présente les Juifs croyants comme des étrangers, vu qu'ils sont bannis du pays d'Israël et dispersés parmi les nations. Ici, en commun avec tous les croyants, ils sont considérés comme des forains et étrangers parce qu'ils sont du ciel. Dans un cas, ils sont étrangers à cause du jugement de Dieu qui les avait chassés de leur héritage terrestre. Dans l'autre, ils sont étrangers en raison de la grâce de Dieu qui les avait appelés de la terre dans les cieux. L'homme du monde est étranger dans les cieux, parce qu'il ne connaît pas le Père et le Fils. Le croyant est étranger de cœur au monde, parce qu'il connaît le Père et le Fils. Il est étranger, n'ayant rien à faire avec ce monde, et un pèlerin, en marche vers un autre monde. Toutefois, la chair dans le croyant lutte contre les progrès spirituels de l'âme. Aussi sommes-nous exhortés à nous abstenir des convoitises charnelles. Nous ne sommes pas appelés à faire la guerre à ces convoitises, mais plutôt à nous en abstenir. Ce n'est pas notre affaire de partir en guerre contre l'alcoolisme, l'immoralité ou d'autres fléaux dans le monde. Nous avons au contraire à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. L'apôtre nous a mis en garde contre les convoitises charnelles en nous. Maintenant, au verset 12, il va nous exhorter quant à notre conduite extérieure devant le monde. Nous devons veiller à agir en toute honnêteté, afin que, par nos bonnes œuvres, nous fassions mentir les paroles dures qui nous font passer pour des gens faisant le mal. Le jour de la visitation se réfère aux voies actuelles de Dieu envers le monde. Les hommes peuvent médire du chrétien, mais lorsque les peines les surprendront, parce qu'ils se seront laissés aller à leur convoitise, ils devront reconnaître que Dieu bénit ceux qui mènent avec calme et patience une vie de bonnes œuvres. Dans les exhortations qui suivent, le croyant est envisagé dans ses relations avec les institutions et les autorités de ce monde. Ceux qui prennent la place d'étrangers dans ce monde seraient tout à fait inconséquents s'ils cherchaient à former ces institutions ou à nommer les autorités. Pourtant, nous devons leur être soumis, et cela pour le motif le plus élevé, pour l'amour du Seigneur. Nous devons nous soumettre aux autorités subordonnées aussi bien qu'aux autorités supérieures, et cela à cause du Seigneur. Qu'elles exercent leur pouvoir dans la crainte de Dieu ou qu'elles manquent à cet égard, nous sommes tenus de les reconnaître comme envoyés de Dieu pour le maintien du gouvernement du monde. En se soumettant aux autorités et en faisant le bien, le chrétien fermera la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens qui accuse le croyant de se rebeller contre l'autorité. Luc 23, versets 14 et 15, Actes 24, versets 12 et 13. Nous sommes libres vis-à-vis du monde, mais nous ne devons pas user de notre liberté pour médire des autorités de ce monde. Nous avons plutôt à nous consacrer totalement au service de Dieu. Quant au rang social dans le monde, veillons à ne pas traiter les hommes avec mépris ou dédain. Ne traitons pas dédaigneusement le pauvre, ni servilement le riche, honorons-les l'un et l'autre. Dans ce cercle auquel nous avons le privilège d'appartenir, celui de la famille de Dieu, nous avons très spécialement à honorer tous les hommes. À l'intérieur de ce cercle, nous faisons davantage qu'honorer. Nous nous aimons les uns les autres. D'autres passages montrent clairement que la crainte de Dieu est la seule limitation à notre soumission aux autorités. Si celle-ci exige une désobéissance manifeste à Dieu, nous devons obéir à Dieu d'abord. Acte 4, verset 19. Aussi avons-nous ici « craignez Dieu » avant « honorer le roi ». L'apôtre nous a rappelé la conduite qui convient aux relations dans lesquelles tous les chrétiens se trouvent. Il va s'occuper maintenant de la conduite propre aux relations particulières qui sont la part de plusieurs. Il parle d'abord des domestiques, au verset 18 à 25, puis des femmes, chapitre 3, verset 1 à 6, et enfin des maris, chapitre 3, verset 7. Versets 18 à 25, les relations des domestiques envers leur maître. Citation de l'Écriture. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. Car c'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte des afflictions, souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si, souffleté pour avoir mal fait, vous l'endurez? Mais si, en faisant le bien, vous souffrez, et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi, Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais maintenant, vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes. Fin de citation. Pierre s'adresse pour commencer aux serviteurs chrétiens. Le mot grec, nous dit-on, désigne les domestiques, c'est-à-dire les serviteurs qui habitent la maison, et non pas nécessairement les esclaves. Les chrétiens dans leur ensemble ont déjà été exhortés à être soumis à toute institution humaine. Maintenant, c'est le serviteur ou l'employé chrétien qui est exhorté à se soumettre. Plus loin, la soumission sera placée devant la femme chrétienne, devant les jeunes frères, et finalement devant chacun de nous, les uns par rapport aux autres. Évidemment, comme quelqu'un l'a dit, la soumission est la qualité par excellence qui sied à des étrangers. Si je suis roi dans mon royaume, je peux exercer l'autorité et la domination. Mais si je suis un étranger, un exilé, c'est un esprit de soumission qui doit me caractériser tout au long de ma vie. Placez l'étranger dans la relation que vous voudrez, l'Esprit de Dieu attend de lui cette disposition de soumission. Le serviteur doit être soumis, que le maître soit bon ou méchant. La dureté d'un maître peut entraîner de la souffrance pour un domestique chrétien. Cela permet d'introduire la deuxième forme de souffrance dont l'apôtre parle dans son épître, les souffrances à cause de la conscience. Tout en se soumettant, le serviteur doit garder une bonne conscience devant Dieu en refusant de faire le mal. Si cela entraîne des souffrances injustes, que le croyant se souvienne que faire le bien, souffrir à cause de cela et l'endurer est digne de louange devant Dieu. Lorsque nous souffrons et que nous l'endurons en faisant le bien, nous manifestons aux yeux de Dieu, la vie même de Christ. Cela explique un grand nombre des circonstances éprouvantes dans lesquelles nous pouvons nous trouver comme chrétiens. Dieu les permet pour nous donner l'occasion d'exprimer les vertus de Christ, pour son bon plaisir et pour notre gloire à la fin. Si nous sommes appelés à être avec Christ dans la gloire, nous sommes aussi appelés à suivre ses traces sur le chemin qui mène à la gloire. L'apôtre indique trois de ces traces. D'abord, il n'a pas commis de péché et la fraude n'a pas été trouvée dans sa bouche. Deuxièmement, il a souffert sous les outrages et les menaces. Troisièmement, lorsqu'il était outragé, il l'endurait. Il ne rendait pas d'outrage ni ne menaçait. Face à tous ses accusateurs, sa ressource était en Dieu. Il se remettait à celui qui juge justement. Lorsqu'il fut faussement accusé devant le Sanhédrin juif, il garda le silence. Matthieu 26, verset 63. Aux accusations des Juifs en présence de Pilate, il ne répondit rien. À Pilate lui-même, il ne répondit pas même un seul mot. Matthieu 27, verset 12 à 14. Hérode, qui s'en moquait, l'interrogea longuement, mais il ne lui répondit rien. Luc 23, verset 9. Il se taisait devant les hommes parce qu'il avait sa ressource en Dieu. Puissions-nous suivre ses traces et, face aux paroles méchantes des hommes, quelle que soit leur provenance, nous taire en réalisant que le Seigneur est notre ressource. Prenons pour nous les paroles du prophète et disons « L'Éternel est ma portion. C'est pourquoi j'espérerai en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. C'est une chose bonne qu'on attende, et dans le silence, le salut de l'Éternel. » Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 24 à 26. On remarquera que c'est seulement dans cette relation particulière que le Seigneur peut être cité en exemple, car il a lui-même pris la place de serviteur. D'autres passages laissent clairement entendre que le chrétien peut supplier, exhorter ou même reprendre, mais jamais il ne doit rendre d'outrage ni menacer. En outre, le chrétien a un autre motif pour faire le bien ou vivre à la justice. Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois, non seulement afin que nous soyons justifiés et délivrés du jugement des péchés, mais afin que nous vivions à la justice. Ayant été guéris par ses meurtrissures, pouvons-nous continuer dans le péché qui lui a coûté si cher? Christ ayant souffert pour le mal que nous avons fait, honte à nous si nous souffrons pour avoir mal fait. Nous avons le privilège de pouvoir suivre ses traces et souffrir en faisant le bien. Ce n'est qu'en l'ayant lui devant nous que nous pouvons marcher sur ses traces. Étant ses brebis, nous sommes en sécurité seulement en suivant le berger et le surveillant de nos âmes.